Douiman.
Merci d'être avec nous. C'est le moment de suivre le journal. En voici tout de suite le sommaire. L'abbé Dieudonné Nibizi prévient que les responsables qui considèrent le pays comme une vache laitière risquent d'entraver la vision d'un Burundi émergent en 2040, telle que prônée par le chef de l'État. Il l'a dit ce mardi lors des prières organisées par la famille présidentielle. Vous l'entendrez. Et la société de production des fertilisants FOMI balaye d'un revers de la main les accusations portées contre elle par le ministre des Finances. Une conférence de presse a été organisée pour éclairer l'opinion. Reportage à suivre. Et la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption devrait être accompagnée par des mesures comme la protection de ceux qui dénoncent les auteurs de corruption. Vous entendrez les explications d'un activiste de la société civile. Voilà pour l'essentiel.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Les dirigeants sont appelés à changer de comportement pour éviter tout ce qui pourrait attirer des malédictions sur le pays. C'est un appel lancé par le président de la République lors de la clôture de la croisade de prières qui ont eu lieu dans la ville de Bujumbura. Évariste Ndayishimiye s'en est pris aux dirigeants soif de biens matériels qui accaparent les richesses de l'État. Selon lui, ces pratiques sont parmi les causes majeures qui freinent le développement du Burundi. On l'écoute dans la traduction française d'Evariste Nzikobanyana.
Le péché grave commis par les dirigeants, c'est la cupidité et l'appropriation des richesses du pays, comme si elles leur appartenaient personnellement, ce qui a attiré une malédiction sur le Burundi. Parmi nous, certains dirigeants ont commis des actes inacceptables en s'appropriant des biens des citoyens et en les transformant en leur propriété. S'accaparer un terrain de l'État, le revendiquer comme sien et le vendre à sa guise, c'est une source de malédiction pour la nation. Il y a même des responsables qui détournent les ressources publiques à leur profit. Sachez que ces comportements sont extrêmement graves. Une autre source de malédiction, c'est l'oppression du peuple, car Dieu rejette ceux qui oppriment les autres. Un pays sous malédiction ne peut jamais se développer. Cette révélation explique pourquoi le Burundi n'a pas encore connu un vrai progrès. Dieu nous a placés sur cette terre et nous a dotés de grandes richesses, mais nous lui avons désobéi par notre mauvaise conduite. Cette révélation vient pour que, dès aujourd'hui, les Burundais deviennent des hommes et femmes nouveaux. Que les dirigeants repartent d'ici transformés, prêts à abandonner tout ce qui attirait la malédiction sur notre nation, en se repentant sincèrement.
Le président de la République. C'est également lors de ses prières organisées par la famille du chef de l'État que l'abbé Dieudonné Nibizi a demandé ce mardi d'amples explications sur ce que signifie un pays émergent afin que le citoyen lambda sache ce qu'on attend de lui et ce qu'il peut espérer pour l'avenir du pays. Cet homme d'église a fait comprendre à l'assistance que si les dirigeants ne respectent pas leurs engagements, ils ont remporté préjudice au pays et les Burundais les accuseront alors de les avoir trahis. Il est traduit par Alain Désiré Bukayenez.
Vous qui êtes en train de faire des calculs sur ce que vous devez réaliser ou faire bénéficier dans X années, sachez bien que si aucun résultat n'est atteint, les Burundais vous accuseront de trahison ou de n'avoir rien accompli durant votre mandat. Dans 14 ans, nous serons déjà en 2040. Il ne faudrait pas que nous soyons déçus, d'autant plus que certains signes de déception sont déjà visibles aujourd'hui. Dites-nous, à nous qui sommes de simples citoyens, ce que signifie réellement l'expression « Burundi émergent » ? Quelle est sa signification pour nos grands-mères, pour nous qui vivons sur les collines ? Nous devons savoir ce qui nous attend, le niveau auquel le pays devra être parvenu. Sans attente claire, nous ne saurons jamais si nous avons avancé ou échoué. Nous devons savoir ce que nous aurons le droit d'exiger de nos dirigeants. Nous, habitants des collines, avons besoin de savoir savoir ce qui aura changé à ce moment-là et quelles seront nos conditions de vie. Dites-nous également ce que nous pourrons apporter comme contribution afin de faire partie de l'équipe, car chacun a sa part de responsabilité. Sinon, vous nous accuserez plus tard de n'avoir pas apporté pierre à l'édifice. Ce beau pays dont vous nous parlez, le pays du blé et du sorgho, du lait et du miel, riche en minerais, à quoi ressemblera-t-il en 2040? Sachez que si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui, les dirigeants que vous nous avez donnés, parmi lesquels ceux que nous avons élus en espérant qu'ils nous conduiraient vers cette vision, ne permettront pas d'atteindre cet objectif s'ils continuent à travailler de la même manière. Certains d'entre eux considèrent déjà le pays comme une vache laitière dont il faut profiter le plus rapidement possible. C'est une honte pour un pays comme le nôtre. Si le pays venait à s'effondrer, sachez que les causes seraient connues. Nombreux seraient ceux qui auraient profité de la vache laitière sans jamais penser à la nourrir et les veaux seraient déjà morts.
L'abbé Dieudonné Niyibizi. La société FOMI produisant des fertilisants organominéraux qualifie d'agression les accusations du ministre des Finances devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans une conférence de presse ce mercredi, Hermène Gilles Demagnang, directeur général adjoint de cette société, a été catégorique en ce qui est des avenants que la société réclame à l'État. Il dit se référer au protocole d'entente entre le ministère des Finances et celui de l'Agriculture sur les quantités à produire. Il annonce tout de même que les arriérés de fertilisants vont bientôt être distribués. Mireille Kanyang.
Lors de cette conférence de presse de ce mercredi, le directeur général adjoint de l'entreprise FOMI a expliqué que les quantités d'engrais organominérales produites découlent d'un protocole d'entente, un protocole, dit-il, qui est signé entre cette société et les ministères des Finances et celui de l'Agriculture, ce protocole étant préparé et signé par les deux ministères et se rapportant aux saisons culturelles à B et C. Ce qui est différent, dit-il, de ce que le ministre des Finances a affirmé devant les députés et sénateurs. Sur base d'un exemple, se rapportant aux saisons culturelles 2024 C et 2025 A, B et C, FOMI devrait produire
222 027,25 tonnes.
Et le gouvernement a demandé à cette société, poursuit-il, de distribuer
245 791,025 tonnes.
Avec 23 736,9 tonnes de différence constituant l'avenant et que l'État devra payer selon FOMI. Devant le Sénat samedi, le ministre des Finances a indiqué que la société FOMI complique les contrats en exigeant des fonds additionnels sur les quantités distribuées, tout en restant catégorique que les quantités d'engrais fournies ne peuvent pas être supérieures aux quantités contractuelles. Ceci amène la société FOMI à dire haut et fort que le ministre des Finances a ignoré le protocole et les étapes de production des engrais organominérales. Malgré cela, il tranquillise que les arriérés des fertilisants seront bientôt payés et rejette ce qu'il qualifie de mauvaise langue sur cette société, car, ajoute-t-il, cela peut avoir des conséquences néfastes non seulement sur l'entreprise, mais également sur l'agriculteur et le pays.
Mireille Kanyang, rappelons que le ministre des Finances Alain Dikoumana avait dénoncé devant les députés des irrégularités constatées dans l'utilisation par la FOMI des fonds publics destinés à la production des fertilisants distribués à la population. Il a rappelé que l'État ne peut accepter qu'un contrat initial clairement fixé soit dépassé sans cadre préalable ni accord formel entre les parties. La FOMI réclame actuellement à l'État plus de 50 milliards de francs burundais, affirmant avoir dépassé de 17% les quantités d'engrais prévues dans le contrat pour les saisons culturelles B et C de 2025. Et le ministre des Finances toujours annonce pour bientôt l'organisation des séances de contrôle et de vérification des fonds des coopératives Sangwe afin de savoir si celles-ci rembourseront ou pas à l'État. C'était samedi dernier à Gitega lors d'une séance d'analyse et d'adoption du projet de loi budgétaire révisé exercice 2025-2026, correspondance de Gérard Nibikila.
La sénatrice Sabine Nakarutimana a demandé si oui ou non les coopératives Sangwe Kibondo réparties sur toutes les collines du pays et qui ont connu un progrès vont rembourser les fonds qui leur ont été octroyés comme prêts en reconnaissant qu'il y a des coopératives Sangwe qui sont tombées en faillite. Répondant à cette question, le ministre des Finances Alain Dikumana a expliqué que des informations provenant de l'Agence nationale pour la promotion et la régulation des sociétés coopératives ANACOP font savoir que l'argent des coopératives Sangwe se trouve au compte des communes. Ainsi qu'en tenait-il, il sera bientôt organisé des séances de contrôle et de vérification des comptes de ces coopératives Sangwe l'un après l'autre afin de prendre des décisions qui s'imposeront si du moins les coopératives tombées en faillite rembourseront ou pas les fonds qu'elles ont reçus, de même que ceux qui ont connu des progrès. Il souligne également qu'il aurait entendu par oui dire qu'il y aurait certains administrateurs communaux qui prélevaient 1 million de francs sur les 10 millions accordés à chaque coopérative Sangwe et que tout cela sera vérifié. Il trouve qu'il faut analyser tout ce qui a été fait à partir des années 2005, non pas dans l'objectif d'attaquer l'un ou l'autre individu, mais plutôt pour l'auto-évaluation visant à corriger des erreurs observées tout en accueillant bien les critiques éventuelles. C'était ce samedi à Gitega lors d'une séance d'analyse et adoption par le Sénat burundais de la loi budgétaire révisée exercice 2025-2026. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour Radio Isanganiro.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
La nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption devrait avoir des mesures d'accompagnement protégeant ceux qui dénoncent les auteurs de corruption afin qu'elles soient mises en œuvre efficacement. Propos de Vianney Ndayisaba, président de l'organisation de lutte contre la torture et le chômage à Lushoto, à la suite de l'adoption la semaine dernière de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Selon lui, bien que cette stratégie soit positive, elle fait face à plusieurs obstacles comme la peur de dénoncer les personnes impliquées dans la corruption. L'opinion redoute aussi que ceux qui sont chargés de diriger ce programme soient eux aussi parmi les premiers à se livrer à la corruption. Il est traduit par Leonidas Kirombo.
Cette stratégie en soi est bonne, mais elle fait face à plusieurs obstacles qui rendront difficile sa mise en œuvre. Le premier obstacle est que tu constateras que ceux qui vont la diriger sont souvent les mêmes personnes qui ont déjà consommé des pots de vin. Certains ont même des dossiers de détournement. Or, s'ils ont eux-mêmes profité de la corruption, comment pourraient-ils la faire avancer? Un autre obstacle qui entravera cette stratégie est le fait que, du plus jeune au plus âgé, les gens ont peur de dénoncer ceux qui ont pris des pots de vin parce que dès que tu parles, tu es persécuté. Un autre obstacle encore, c'est la solidarité négative. Lorsqu'un problème survient, les personnes se protègent mutuellement en se couvrant, en disant « c'est quelqu'un de notre groupe ou de notre parti » et on refuse de le dénoncer s'il appartient au même parti. Je voudrais vous dire que pour que cette stratégie puisse être mise en œuvre, il y a trois choses essentielles sur lesquelles il faut travailler. Bien étudier ceux qui vont être à la tête de cette stratégie en y impliquant des personnes intègres et non des sourds muets qui refusent de dire la vérité et qui n'osent pas dire « celui-ci pose problème ». Si on le met en avant, il nous nuira. Le choix des responsables est très important car ce sont eux qui portent la mise en œuvre. Mettre en place des mesures d'accompagnement chargées de protéger les personnes qui dénonceront les auteurs de corruption. Nous demandons au chef de l'État et au premier ministre de montrer à toute la population que personne n'est au-dessus de la loi. Ceux qui se prennent pour des intouchables doivent être soumis à la loi comme tout le monde. Enfin, je conclus en demandant qu'on accorde la liberté et l'espace d'expression à chaque Burundais afin qu'il puisse dire librement ce qu'il déplore dans tous les secteurs du pays.
Perdre la confiance des citoyens qui opteront de saisir la justice internationale. Voilà une des conséquences possibles de la décision confiant à la Commission Vérité et Réconciliation CVR le traitement des dossiers relatifs aux conflits fonciers et autres biens avec des décisions sans possibilité de recours. Selon Maître Salvatore Minani, la loi devrait être révisée afin d'y intégrer des dispositions conformes à la Constitution, celle-ci étant la norme juridique suprême.
Les conséquences lorsque les personnes lésées n'ont pas le droit au recours sont énormes. En l'occurrence, il y a le risque d'erreur irréversible lorsque les décisions sont rendues, alors qu'il peut y avoir notamment de fausses identités ou de preuves insuffisantes. Il devrait y avoir un juge indépendant et impartial qui pourrait corriger cette situation. L'autre conséquence peut être des expulsions ou des expropriations injustes, parce que les décisions judiciaires qui auront été définitives devront être exécutées sans qu'il y ait possibilité de recours et de réparation effective. Troisièmement, il peut y avoir une perte de confiance et des tensions sociales parce que les personnes victimes d'absence de recours peuvent contester la légitimité de la commission et procédure ou le processus de réconciliation qui est consacré par cette loi peut être remis en cause. En quatrième lieu, il peut y avoir évidemment pour ces personnes lésées de recours internationaux contre l'État burundais pour violation de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme et cela devant les juridictions régionales ou internationales. Ici, nous pensons notamment à la Cour africaine des droits de l'homme et dans une certaine mesure à la Cour est-africaine de justice si le traité instituant cette communauté est bien interprété. Lorsque une loi est inconditionnelle, en réalité, elle devrait être remplacée par une autre qui ne l'est pas. Et la procédure qui doit être suivie est bien claire dans la loi qui régit la Cour constitutionnelle. Si la loi qui institue la commission Vérité et Réconciliation a pour vocation la réconciliation des Burundais, eh bien, il faut que cette loi soit constitutionnelle et notamment respecte la constitution elle-même qui est la loi fondamentale et donc une loi qui est en dessous ne devrait pas poser des principes qui violent la constitution, la mère de tous les autres textes législatifs et réglementaires.
Pour rappel, notre reporter a recueilli des inquiétudes sur ce sujet de la part de certains habitants des communes Makamba et Nyanza dans la province de Burunga qui redoutent des actes de vengeance. D'autres estiment que certaines personnes pourraient apporter à la sévère des dossiers déjà classés par l'ancienne Commission nationale des terres et autres biens, CNTB. Le secrétaire général de la CVR a rassuré que cette commission ne retournera pas sur les affaires définitivement clôturées par la CNTB.
Parle, rassure-moi.
Les propos stigmatisant les autres sont ceux qui comparent une personne ou un groupe de personnes à un animal ou à toute autre chose considérée comme sans valeur. Hélène Mawenimana, chef du département de journalisme et communication à l'Université du Burundi, explique que ces propos sont utilisés pour diverses raisons, notamment pour dénigrer ces personnes visées. Certains habitants de la colline Gitaba, en commune Rutana, témoignent avoir déjà entendu de tels propos de la part des citoyens, voire de différents leaders, y compris des responsables religieux. Selon eux, ces propos peuvent engendrer des conflits s'ils ne sont pas rapidement dénoncés. Cette chronique parle, rassure-moi, est signée Ornella Mucho.
Certains habitants de la colline Gitaba, zone Gitaba, dans la commune de Rutana, en province de Burunga, affirment avoir entendu des cas où des citoyens abusent d'autres en les privant de leur dignité. Par exemple, des femmes sont comparées à des objets sans valeur. D'autres signalent que, outre les citoyens ordinaires, certains leaders, y compris des responsables religieux, tiennent également des propos stigmatisants à l'égard d'autrui ou d'un groupe ciblé.
Il y a des leaders religieux qui s'appuient sur les écrits bibliques pour stigmatiser les autres. Par exemple, dans le livre de Jérémie, il est fait mention des chiens et certains prédicateurs utilisent ce passage pour insulter les gens. J'ai déjà entendu un pasteur comparer les fidèles à des chiens sous prétexte qu'ils quittent l'église pour retourner dans le péché.
Selon eux, rabaisser les autres témoigne d'un mépris, mais cela découle surtout des conflits d'intérêts. Ainsi, certains chercheraient à discréditer les autres pour les faire passer pour inutiles à la société ou au pays, comme l'a souligné cet intervenant.
Ce genre de discours semble parfois motivé par la volonté de soutenir un groupe tout en salissant un autre. On a même vu des cas extrêmes comme des attaques à la grenade dans des églises. Ce type de rhétorique alimente la haine et engendre des tensions. Pour contrer cela, il est essentiel que des personnes surveillent de près ces leaders qui propagent de tels messages, ils devraient être démis de leurs fonctions, car un bon leader religieux doit transmettre des messages bienveillants qui apaisent les cœurs.
Dimitima,
chef adjoint de la colline de Guitaba, explique que ce genre de discours est fréquent chez les personnes ayant des différends. Il indique que lorsque l'administration est informée à temps, intervient rapidement pour éviter que cela ne dégénère en conflit ouvert.
S'il n'y avait pas d'intervention, il y aurait des scandales. Car on a déjà constaté que lors de n'importe quel conflit, les gens s'échauffent rapidement.
Hélène Mahonimana, chef du département de journalisme et de communication à l'Université du Burundi, souligne que ceux qui tiennent de tels propos cherchent souvent à protéger leurs propres intérêts en rabaissant les autres. Il avertit que ces discours peuvent à la longue engendrer des conflits si rien n'est fait pour les arrêter.
Ces personnes veulent faire perdre la confiance des gens à la pointe du doigt dans l'objectif de montrer à la société que les personnes ciblées n'ont aucune valeur dans la société. Ces messages peuvent non seulement susciter la haine et la méfiance, mais peuvent aussi être à l'origine de violences de tout genre.
Les auditeurs de ces propos sont également appelés à ne pas les prendre comme modèle.
Lorsque de tels propos sont tenus par les leaders, les citoyens peuvent éviter de les prendre en considération, se garder de les diffuser, chercher leurs sources et si possible, prodiguer des conseils aux auteurs dédiés messages.
Enfin, cette experte en communication insiste pour que la population évite de relayer des messages contenant des propos haineux ou stigmatisants.
Ornella Mucho, de retour de la colline Guitaba, en commune Rutana. Là-bas, il fait 18h22 comme à Bujumbura. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je me joins à toute l'équipe de la rédaction et à toute l'équipe de la radio-télévision Isanganiro pour vous souhaiter les vœux les meilleurs pour l'année 2026.
Jean Bosco, Douimana.